Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Dans cette émission, nous allons parler de l'Argentine. Voilà.
Tiens donc.
Dimanche midi, j'étais en train de me dire, oh là là, de quoi on va parler, de quoi on va parler. Surtout que les échos qui se faisaient depuis l'Argentine vers chez nous étaient pas spécifiquement négatifs, mais enfin étaient, on va dire, assez neutres. C'est-à-dire qu'il fallait s'attendre globalement à pas grand-chose pour l'Argentine. En gros, ce que la plupart des sondages prévoyaient juste avant l'élection, c'était pas un score particulièrement faible du parti de Javier Milei, La Liberté Avance, mais en revanche, il prévoyait qu'il fasse à peu près autant que l'opposition principale, à savoir l'Union pour la Patrie, les Kirchneristes, quoi, en quelque sorte.
Qui sont des grands voleurs.
Qui
La
sont,
famille
voilà.
Kirchner, c'était quand même des professionnels du vol à la tire, quoi.
Voilà,
C'était
du
incroyable.
vol légal.
Oh,
du
pas
vol
tellement.
légalisé.
Je crois d'ailleurs que Mme Kirchner a fait de la tôle. Enfin, je sais
Enfin,
plus.
il y a
Il y en a
eu
deux qui
quand
ont fait
même
de
des
la tôle.
scandales de corruption. On reprochait d'ailleurs au pays de falsifier ses comptes. Enfin, il y a eu quand même
Les
des
Kirchner,
choses
c'était les tout meilleurs
illégales.
parmi les dirigeants argentins. Il y en a eu tout un tas qui ont été des gros voleurs, mais je crois qu'ils avaient le... Qu'il y ait 20% des gens qui votent pour ces gens-là, ça reste pour moi mystérieux, quoi.
Ça reste tout de même plus que 20, parce que c'est quand même 25%.
25%.
Mais ça fait 40% pour La Liberté Avance. Alors je tiens à faire un petit retour en arrière, 2 ans en arrière. Donc on se souvient des élections présidentielles avec par conséquent le succès de Javier Milei. On les avait commentés. En même temps, il y avait eu aussi, c'est comme ça que ça marche en Argentine, le renouvellement de la moitié des sièges de la Chambre des députés. Donc à la Chambre des députés, il y a 257 sièges. Et en 2023, c'était 130 des 257 qui étaient renouvelés, ainsi que 24 des 72 sièges du Sénat. Et à l'époque, le parti de Javier Milei avait pas fait un très très gros score. Javier Milei avait fait un score proche de 40%, son parti politique, en revanche, avait fait seulement 28% contre 38% pour l'Union pour la Patrie, donc le principal parti d'opposition. Ce qui a fait que, même s'il était allié avec Patricia Bullrich, qui avait aussi une grosse trentaine de députés, eh ben son gouvernement, en gros, avait une minorité au Parlement.
Oui, mais il avait une espèce de minorité de blocage, c'est-à-dire
Ouais.
qu'il pouvait rien ne pouvait passer si ses députés n'étaient pas d'accord. Donc, il n'était pas dans une situation très forte, mais
Ouais.
il pouvait faire des trucs quand même.
Voilà, il a pu faire passer des trucs. Alors, il y a eu quand même quelques tentatives de blocage réussies, dont certaines, comment dire, qui ont forcé le gouvernement à faire quelques compromis. Au début, Milei est parvenu à faire voter quand même des textes assez importants. Ça s'est arrêté d'abord avec le premier accroc, qui était la loi Omnibus en février 2024. Donc, il avait obtenu le vote sur le texte général, et ensuite, le vote article par article, c'est considérablement compliqué. Il n'y avait pas seulement l'opposition à la Chambre qui était très importante, il y avait aussi l'opposition au Sénat, parce
Sénat,
que
oui.
pour le coup au Sénat c'était encore plus dur. En mars 2024, le Sénat avait aussi rejeté un méga décret de dérégulation, le DNU, qui était finalement resté en vigueur par son non-rejet à la Chambre. Donc voilà, justement, c'est grâce à cette minorité de blocage qu'il a pu ne pas rejeter ce texte à la Chambre. Et puis, en fait, le fait est que l'opposition elle-même n'avait pas forcément de majorité, parce qu'en Argentine, il y a énormément de place qui est faite à des partis locaux. Et donc, en réalité, il y avait vraiment le pôle gouvernement avec La Liberté Avance et le parti de Patricia Bullrich. Et de l'autre côté, il y avait l'Union Patriote, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'Union pour la Patrie. Donc voilà. Les sondages dernièrement étaient pas ultra positifs, donc pour
À quoi ça sert les sondages? Parce qu'ils n'arrêtent pas. Vous
bah
vous souvenez, ce bon Trump a fait un raz-de-marée puisqu'il avait emporté le Sénat, la Chambre des députés, etc. Et tous les sondages nous donnaient tête à tête. Donc les sondages, on va avoir un biais pour la gauche, enfin pour la gauche, pour le parti gouvernemental mondialiste, appelez-le comme vous voulez, à chaque fois.
je suis pas tout à fait d'accord pour Trump, en tout cas pour le Trump 2024, parce que moi je regardais beaucoup les sondages, et pour le coup, quand on regardait les sondages état par état dans les états clés, je voyais que clairement Trump avait une avance. Alors Trump avait eu un petit peu plus d'avance que ce qui était prévu dans les
Mais en
sondages.
même temps, on disait que la Chambre des députés, ça allait pas. Enfin, Ouais. Il a tout enlevé, quoi. C'est ouais. ce qu'on appelle aux États-Unis le flush royal, c'est-à-dire que vous avez les deux chambres ouais. et la... Enfin, je sais pas. Donc, pour moi, si vous voulez, depuis que je suis dans ce métier, les sondages doivent avoir une erreur. Ça dépend de la taille du sondage, mais de 1 à 1,5% dans chaque chance, quoi. Et le nombre de fois où ils sont plantés, c'est monstrueux, quoi.
Ouais.
Sur le Brexit, c'était incroyable. Sur le fameux vote qui n'a pas été respecté par Sarkozy, c'était... on devait gagner... La Commission européenne devait gagner les doigts dans le nez, c'était 55% contre. Ou alors, les gens dans les sondages ont peur s'ils ne pensent pas bien, s'ils ne sont pas dans la pensée qu'on...
Ouais.
ont peur de...
Le truc, c'est qu'effectivement, à chaque fois, même par volonté de bien faire, les instituts de sondage, dans leur méthode, ne retranscrivent pas strictement les résultats qu'ils ont eus.
Non,
ils font des corrections.
Ils bidouillent.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils bidouillent avec la volonté de tromper non. tout le monde, mais ils peuvent avoir une méthode de bidouillage qui est mauvaise.
Ben, je sais que, par exemple, en France, on a pendant des années... surestimer le résultat des communistes parce que les gens disaient pas qu'ils votaient communistes, et puis ensuite on a fait le même coup avec Le Pen, les gens avaient honte de dire qu'ils votaient pour Le Pen, donc on rajoutait en hausse. Mais là, depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est toujours si j'ose dire le parti globaliste qui est favorisé. Non, ils vont faire bien. Donc on a l'impression que dans les sondages, les sondeurs pensent qu'il y a les gens raisonnables qui devraient gagner et les populistes qui devraient perdre, quoi. C'est
oui. Après, cela dit, dernièrement, où qu'on regarde, les partis, on va dire globalistes, justement, enfin, les sondages montrent que les partis globalistes sont en train de descendre dans l'opinion à vitesse grand V, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Allemagne.
Ouais, enfin, partout.
C'est le cas un peu partout.
Et maintenant, l'Argentine, c'était pas un pays globaliste, c'était juste un pays qui était géré par une mafia criminelle. Ouais. Donc,
c'est ça, c'était la mafia locale.
C'était la mafia locale, donc c'est un pays criminel, quoi. C'est comme si vous faisiez des élections, j'imagine, je sais pas, en Sicile, ou il y a quelques années, où il y avait la mafia, puis il y avait les autres, quoi.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur le total des députés renouvelés, des sièges renouvelés, La Liberté Avance, le parti Javier Milei, a obtenu 64 élus. L'opposition, la Force de la Patrie, en a obtenu 31. Et donc, cela porte le parti La Liberté Avance à un nombre total de 107, sachant que la majorité absolue, c'est 129. Donc, ils s'en sont considérablement rapprochés. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils n'aient pas la majorité absolue de par le système électoral, mais bon, c'est quand même une énorme progression pour La Liberté Avance. On peut totalement parler de victoire pour Javier Milei.
Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est les noms choisis, parce que d'un côté c'est La Liberté d'abord,
oui.
et de l'autre côté c'est La Patrie, et donc ça me paraît curieux, parce que pour moi les deux devraient être dans le même camp, c'est-à-dire que vous ne pouvez être libre que si votre patrie est libre. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Donc cette espèce de truc de dire si vous êtes pour la liberté, c'est que vous êtes contre votre patrie, ça me paraît une idée bizarre.
Ouais, bah après forcément les types d'en face se revendiquent du patriotisme parce que c'est considéré comme une vertu malgré tout. Ils vont pas se revendiquer forcément de la corruption ou du vol.
Non, mais si vous voulez, Perón, c'est un type qui a pris un pays extraordinairement prospère en 46 ou je sais pas combien et qui l'a transformé en un pays sous-développé tout en étant un ancien officier, j'imagine patriote, donc pour moi c'est une question importante, c'est qu'est-ce que vous mettez d'abord, la patrie ou la liberté? Et je dis, je mets d'abord la liberté pour que ma patrie soit convenable, quoi. Parce que si je mets pas la liberté, on va capturer la notion de patrie pour me voler, quoi.
Oui, tout à fait. On va.
C'est
oui.
un peu le truc qu'on a, si vous voulez, entre les libéraux et le Rassemblement National.
Oui, c'est un petit peu ça. Oui, c'est on capture la notion de patrie
pour mettre en danger la liberté. C'est-à-dire que même les gens du Rassemblement National ne semblent pas croire que la solution c'est plus de liberté, quoi.
Oui. Oui, c'est d'ailleurs, en fait, c'est un peu la même chose que pendant la Révolution française, hein. C'est-à-dire, il y a un chantage au patriotisme.
Ouais.
Il faut absolument que tu dises vive la République, vive la Révolution, sinon tu n'es pas un vrai patriote. Il faut absolument que tu donnes tous tes biens.
Tu vas massacrer les Vendéens avec beaucoup d'ambition.
Donne tes biens à l'État, sinon t'es pas un vrai patriote. Fais ceci, fais cela, sinon t'es pas un vrai patriote. Il y a un chantage au patriotisme.
Oui. Moi, pour moi, ça me paraît très curieux. Cette opposition entre la patrie et la liberté, ça me paraît un truc qui n'a pas lieu d'être, mais...
Oui. Non, c'est sûr, les deux vont bien ensemble. C'est simplement que l'opposition se revendique de la patrie, quand bien même elle s'en fiche en réalité, quoi. Donc derrière, ce que ça a fait, c'est que la première conséquence que j'ai vue, c'était sur le marché, parce que alors dernièrement, c'était en 2025, le marché argentin avait pas forcément très bien performé, contrairement à 2024 où il avait fait du 120%. Et j'ai regardé la plupart des actions. On va dire, enfin, coté à plusieurs milliards, on fait plus 30% en une seule journée. Donc tout le monde était très enthousiaste là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait énormément de capital qui se déploie en Argentine?
Mais d'abord, dans la plupart des pays d'Amérique latine, vous avez le capital qui est resté à la maison, qui est très souvent c'est le cas au Brésil aussi, l'archi minimum, quoi, vous voyez, pour faire tourner les affaires. Puis vous avez le capital qui est géré à partir de Miami, qui est le capital qui vend, qui rentre, qui sort, etc. Selon les. Donc, je ne sais pas si j'ai raison dans ce que je vais vous dire, mais pour moi, il y a quelque chose qui est très probable, c'est que cette victoire en Argentine va avoir une influence profonde aussi, pas simplement sur l'Argentine, mais sur le Chili, sur le Brésil, sur la Colombie, sur tous ces pays-là, peut-être sur le Venezuela. Et donc, ça peut ramener beaucoup, beaucoup de capitaux à partir du moment où le droit de propriété redevient sacro-saint, ce qui semble être le but de Rami Emanuel. Si vous avez des capitaux à l'extérieur, vous vous dites, je vais les ramener à la maison, quoi. C'est, il y avait un truc qui était rigolo en France, j'ai dû déjà vous le raconter, il y a des années, c'était le franc-suisse versement. Je vous en ai parlé ou pas?
Je crois pas.
Il y avait coté tous les jours à Paris, là, c'était coté dans un restaurant à côté de la bourse, il y avait ce qu'on appelle le franc-suisse versement, c'est-à-dire à l'époque, combien valait le franc français rendu en Suisse, vous savez, pour être échangé contre du franc-suisse, quoi. Et donc vous voyez très bien que vous aviez d'époque où le franc suisse versement était au-dessus du franc suisse ou en dessous du franc suisse, ça vous donnait les moments où il y avait la trouille sur la bourse de Paris, etc. Et très souvent, quand il y avait quelque chose qui se passait, vous vous rendez compte qu'il y avait plein de gens qui avaient plein de fric en Suisse qui voulaient le ramener en France parce que c'était le moment où il y avait Pinet qui était au pouvoir, je sais pas qui, et ils se disaient c'est le bon moment. Donc ça a été supprimé, c'est dommage. Puis en plus, on peut plus avoir de compte en Suisse. Mais c'était très bien parce que c'était une espèce de trouillomètre qui était qu'on suivait, qui était coté officiellement. Quand vous aviez le franc suisse versement, c'est-à-dire vous pouvez aller voir votre agent de change et vous dire voilà, j'ai des francs français, j'aimerais avoir des francs suisses, à combien c'est, quoi. Et donc cette élection, s'il y avait eu un peso versement, si j'ose dire, en dollars, le peso serait sans doute en train de monter. C'est-à-dire que ce que me disait un vieil ami argentin qui était d'origine allemande, mais il me disait toujours, on est arrivé en Argentine en 1914, hein, pas en 1945. Hein, parce qu'il y a aussi toutes ces guerres qui sont arrivées.
C'était pas la même guerre mondiale,
c'était
pas les mêmes motivations.
C'était pas les mêmes motivations. Tout un bandeau qui lui était arrivé bien avant. Il s'appelait Von Busch, c'était un vieil aristocrate allemand qui était marrant. Et il me disait, le problème de l'Amérique latine, c'est que les gens qui sont partis en Amérique du Nord, les Italiens, les Français, les Anglais, etc., ils sont partis pour s'établir et devenir citoyens américains. Parce que la plupart des gars qui sont allés en Amérique latine, ils arrivaient d'Espagne, des trucs comme ça, d'Italie, avec l'idée qu'ils allaient faire fortune et rentrer au pays. Donc il y avait une notion de j'essaye de faire le maximum de fric, et puis quand je l'ai fait, je me barre avec mon fric, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait
la capitale ne reste pas.
La capitale ne restait pas. Donc la caractéristique de l'Amérique latine, c'était extraordinaire volatilité du capital.
C'est un peu ce qu'on a vu sur 2024-2025. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont dit, allez, hop, c'est le moment, un libéral en Argentine, évidemment.
Mais ça va pas durer, donc je vais.
Voilà, les actions ne valaient rien du tout,
rien du tout.
Parce que le marché était absolument exécrable depuis des années. Donc hop, on met du pognon, et ensuite, courant 2025, on se dit, bon, on a déjà d'une part fait pas mal de pognon, donc peut-être on peut commencer à rapatrier. Et puis en plus de ça, il y avait des rumeurs réelles ou supposées sur la popularité de Javier Milei qui commençait un peu à s'écorcher, ce qui est un peu normal avec le temps.
Surtout quand il a pris les mesures qu'il a prises.
Voilà, surtout après les mesures qu'il a prises, forcément il a pris des risques, et puis pareil, il a eu
là,
une politique monétaire assez imprévisible.
Il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que donc, pour se débarrasser des types qui avaient des velléités de réforme en Argentine, il fallait toujours faire une attaque sur la monnaie argentine. Donc elle se pétait la gueule, le FMI était appelé, donc on virait le gars en disant il est incompétent. Donc il y a eu l'attaque 2 ou 3 mois avant l'élection à laquelle on pouvait s'attendre. Et là, je veux dire que Trump m'a surpris parce qu'il a dit, non, moi je soutiens Milei, ouais. Et il prête 40 milliards de dollars.
Composé d'un échange de devises de 20 milliards avec le département du Trésor et une facilité de dette de 20 milliards de dollars.
Voilà, donc il y avait un accord de swap. Et comme l'a dit Trump hier, il dit, je suis très content des résultats de cette élection, en plus on a gagné de l'argent.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que Trump est arrivé à un moment, ce que personne n'avait jamais fait dans l'histoire américaine, ça passait toujours par le FMI, ce qui rendait en quelque sorte impopulaire le gars qui venait dans le FMI, quoi. C'était. Ouais. Tandis que là, c'est Trump lui-même qui s'est engagé, c'est-à-dire que les États-Unis ont pris un risque pour Milley, et donc ça confirme l'analyse qu'on a fait ici depuis un certain temps, quand même, de dire, le but maintenant des États-Unis, c'est la doctrine Monroe, quoi. C'est-à-dire que personne n'intervient en Amérique latine et que c'est leur chasse gardée, quoi. C'est.
Oui. Oui, parce que ça, cet accord-là, il est fait aussi pour espérer que l'Argentine se sépare un peu
de la Chine en termes de relations commerciales.
Parce que et des briques. Ces relations commerciales, c'est d'abord les États-Unis, ensuite c'est la Chine. Donc c'est quand même deux poids lourds.
Et donc c'est très intéressant parce que là, on a vu une prise de risque de Trump. Que personne n'avait jamais fait avant lui, justement. Donc, ça veut dire que si les gens suivent une politique, mettons, dans les pays latino-américains qui sont un peu moins anti-yankee, ils peuvent peut-être espérer le soutien de la trésorerie américaine, ce qui n'est pas rien, quoi.
Ouais, tout
donc,
à fait.
Ça, tout ça, si vous voulez, ça a été très intéressant à voir parce qu'il y a eu l'attaque, elle a été contrée par Trump, très vite, et pof! Il gagne à la stupéfaction générale.
Ouais, tout à fait.
C'est ça qui est.
Alors les socialistes disent c'est scandaleux, Trump a acheté en quelque sorte l'élection argentine.
Oui, ça valait mieux qu'eux qui se faisaient pour la perdre en attaquant le peso, quoi. C'est. Oui, il a acheté l'élection argentine, mais en effet, ça a permis aux gens de prendre une décision sans que la monnaie s'écroule, quoi.
Ouais.
Et on se rend compte que ces gars-là, c'était eux qui attaquaient la.
Oui.
Parce qu'ils ont une certaine habitude.
Oui. Et puis, alors, j'ai vu un article intéressant aussi qui explique parce qu'il y avait une élection partielle à Buenos Aires il y a quelques semaines.
Oui, c'est là où l'attaque a commencé.
Voilà. Et les socialistes ont gagné cette élection. Alors même si le parti de Javier Milei avait quand même largement progressé. Et puis comment dire, c'est la ville principale, donc c'est aussi pas la même sociologie. C'est un peu comme si on faisait des élections à Paris et qu'on essayait de lire à partir des élections à Paris ce que pensait la population française. C'est diamétralement opposé. Donc quand la population parisienne va dans un sens, littéralement la population française va dans l'autre, donc déjà c'est pas vraiment un baromètre pertinent, et d'autre part j'ai vu un article qui disait que certainement les résultats des législatives dans la province de Buenos Aires pouvaient s'expliquer par un changement de méthode de comptabilité avec un autre logiciel qui permettait d'éviter certaines fraudes. Donc en quelque sorte, la victoire de Javier Milei dans la province de Buenos Aires est expliquée par le manque de fraude.
C'est pas impossible.
C'est pas impossible. Moi, j'en sais rien. Je suis pas sur place.
Il y a dans certains endroits, certaines villes aux États-Unis où c'est même. Il faudrait qu'ils prennent ce logiciel. Je sais pas. À Philadelphie, à Chicago, on aurait peut-être ou en Californie, on est peut-être un résultat différent aux élections. Quoi.
Oui, c'est tout à fait possible. Oui.
Mais c'est ou en Corse. Tiens.
non, je ne m'aventurerai pas en ces termes.
C'est toujours le truc d'Astérix et Obélix, oui. Sur Astérix et Obélix en Corse, oui. On aime beaucoup les Corses, mais ils n'ont pas le sens de l'humour, donc on va rien dire. Hein.
C'est comme. C'est en quoi déjà qu'on dit. On peut rire de tout, mais il faut pas.
Il faut pas, c'est ça. On peut rire des Corses, mais il faut pas.
Alors, il y a un truc dont je voudrais parler tout de même, c'est l'inflation, parce que l'inflation, c'est un peu la maladie monétaire principale qui ronge l'Argentine depuis pas mal de temps, hein, avec une inflation très régulièrement au-dessus des 50%. Ça avait explosé en 2023-2024.
C'est ce qui avait amené Milei, d'ailleurs. C'était je sais plus à combien, c'était à 250.
Enfin, ouais, on est allé à un maximum de 275% d'inflation mensuelle.
Un truc qui valait 1, c'était valait quoi 27,5 après.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est, non, mais c'est colossal.
Vous achetez votre, enfin, votre café, il passe de 1 euro à 27 euros, quoi.
Enfin, il passe de 1 euro à, si on a une inflation de 100%, il passe à 2 euros. Et du coup, si on a une inflation de près de 300%, il passe à presque 4 euros, quoi. En l'espace de même pas un an. Donc, oui, c'est absolument colossal. C'est colossal. Et d'ailleurs, Milei avait temporairement accéléré ce mouvement, puisque en fait, il a
libéré tous les prix.
Voilà, il a libéré tous les moyens. Et il a dit, en gros, dévaluation énormissime du peso, parce que le peso était largement surévalué d'un point de vue officiel.
Ce qui permet à tous les crapules de gagner de l'argent, parce que ils vont à la banque centrale, je sais pas quoi, ils ont le cours officiel et ensuite ils vont le vendre dans le marché et ils ont un cours officieux, donc c'est
tout à fait, c'est ça. En fait, il y avait un développement du marché noir. Du coup, il y avait un taux de change officiel et puis le taux de change officieux. Le taux de change officieux étant beaucoup plus proche du taux de marché, en fait. Le taux officiel, je crois que c'était 1 dollar pour 370 pesos, quelque chose comme ça. Et le taux officieux, c'était 1 dollar pour 1000 pesos.
Si vous pouvez aller à la banque et échanger des pesos contre des dollars, puis ensuite aller dans la cour de la banque, les échanger 3 fois plus cher. C'est vite vu comment la corruption, où la corruption venait, quoi.
C'est clair, c'est clair. Et du coup, à chaque fois, je vois des graphiques qui montrent en quelque sorte l'inflation qui est toujours assez élevée, en disant regardez, Milei, c'est vraiment pas terrible. Si on regarde quand même depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, on avait du coup une inflation supérieure à 250% sur un an. Aujourd'hui, on est en gros à 30% sur un an, ce qui demeure tout de même très élevé, mais qui ne fait que descendre.
Il faut du temps, si vous voulez. Moi, j'ai remarqué entre les phénomènes, si vous commencez à attaquer l'inflation, par exemple, et que vous allez doucement vers une baisse de l'inflation, il faut en général 2 ans. Les phénomènes monétaires, c'est 2 ans. C'est-à-dire, si vous commencez à serrer aujourd'hui, c'est dans 2 ans que vous verrez les résultats. Ouais. Et donc, là, il a commencé à serrer, quoi, il y a un an. Donc, on peut penser probablement d'ici, allez, là, si tout se passe bien, si tout se passe pas prévu, on sera en dessous de 1% par mois dans un an d'ici, quoi. Ouais. Alors, c'est pas génial, mais c'est mieux que...
Oui, oui. Et puis, il a mis en place avant... Alors, il y a une notion sans doute assez importante quand même pour comprendre la politique monétaire argentine. Et je vais vous laisser le loisir de la définir. C'est la notion de crawling peg. Alors, qu'est-ce que c'est un crawling peg?
Un crawling peg, c'est vous dire, la monnaie, si vous avez 20% d'inflation par mois, est évident que votre monnaie doit dévaluer de 20% par mois contre les pays qui ont 0% d'inflation, quoi, pour que vous restiez à peu près compétitif. Donc, vous essayez de bloquer, en mettant, pendant 3-4 mois, vous bloquez à un niveau, puis ensuite, quand le niveau devient trop important, vous le faites sauter, vous recommencez à bloquer le taux de change. Donc, c'est une espèce de dévaluation avec effet de cliquet, quoi, voyez, pour éviter que la monnaie ne s'emballe.
Tout à fait. C'est ça. Donc, avant, on avait un crawling peg à 2% par mois.
Voilà.
Et d'ailleurs, qui était passé après à 1% par mois. Normalement, c'est censé se réduire au fur et à mesure. Dernièrement, ça avait été supprimé pour arriver vers une bande de fluctuation. Donc, en gros, avec le peso entre 1000 et 1400 dollars, bande de déviation qui dérive de 1% par mois, plus ou moins 1% par mois, et avec du coup un allègement des contrôles d'échange.
Et c'est très embêtant les pegs comme ça, parce que d'abord, tout le monde connaît le niveau. Et donc, au moment où vous approchez du niveau, il y a des tas de gens qui attaquent pour le faire sauter, si vous voulez. Donc, il vaut beaucoup mieux avoir un truc qui soit, comme vous dites, une bande, mais qui est pas très bien définie, comme ça vous savez pas très bien à quel moment la banque centrale va venir
intervenir. Donc là, la bande, elle est entre 1000 et 1400 dollars, donc ça veut dire que en gros c'est assez large et la banque centrale ne doit intervenir que aux bandes, du coup soit en dessous de 1000,
elle peut intervenir au milieu si elle a envie, c'est juste pour faire courir les gars. C'est toujours la même chose. Si le type, si vous rapprochez, si vous attendez 1400, vous êtes cuit. Mais si vous commencez s'il y a des gars qui se mettent short la monnaie, elle baisse assez fortement. Et puis vous intervenez à ce moment-là pour la faire remonter, mais il y a des gars qui se font brûler. Ouais, et à ce moment-là, il faut montrer que c'est un marché dans les deux sens, quoi.
Ouais, c'est clair. Et alors, de manière générale aussi, je voulais réfléchir à une notion. Parce que peut-être si on parle uniquement de politique économique et monétaire, ce sera peut-être plus intéressant sur l'université de l'épargne pour aller plus dans la technicité, d'autant qu'il y a des notions vraiment techniques et j'ai peur de perdre les gens. En revanche, je voudrais avoir une réflexion globale sur le fait que, selon certains auteurs libéraux, la démocratie peut avoir cette vilaine tendance à dévier, dégénérer vers le socialisme.
Bah, c'est-à-dire, ce qui a cette tendance certainement, c'est la démocratie représentative.
Mmh.
Parce que à ce moment-là, vous élisez quelqu'un. Et donc, la démocratie représentative, au bout d'un certain temps, ne sont élus que les gens qui pensent que les gens qui les ont élus sont idiots. Et donc, il faut continuer à les acheter.
Mmh.
Et donc, pour les acheter, ben, vous faites des déficits budgétaires, vous créez plus de fonctionnaires qu'il ne faut, etc.
Ouais.
Donc, et en effet, ça dérive vers le socialisme. Mais si vous allez vers un pays comme la Suisse, donc on a fait une émission avec un monsieur Mott, qui était très sympathique. La différence essentielle, si vous voulez, c'est que les Suisses ne votent pas pour un homme qui les représentera. Ils votent pour des projets de dépenses ou de recettes.
Oui.
Et donc, à partir du moment où c'est chaque individu qui est responsable des dépenses et des recettes, il est souverain sur ses dépenses et ses recettes, au contraire.
Oui.
À ce moment-là, vous allez vers une comptabilité de cuisinière, oui. Et qu'est-ce que cette histoire, on va pas dépenser plus qu'on gagne, et puis voilà, c'est tout quoi. Donc, je crois que là, ce à quoi on assiste, la maladie de nos pays, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, etc., c'est l'épuisement par corruption, si j'ose dire, de la démocratie représentative, mmh. ce qui s'était déjà produit beaucoup en Amérique latine, avec l'existence du caudillo, du chef, tout ça, si vous voulez, donc l'homme qui sauve. À partir du moment où vous votez sur des projets, sur des dépenses et des recettes vous-même et vous passez pas par l'intermédiaire d'un tiers, c'est-à-dire que c'est ce que disait Bastiat. Il disait si le projet de l'homme politique c'est de piquer de l'argent à Paul pour le donner à Pierre,
ouais.
Il aura toujours le soutien de Pierre.
Oui.
Et l'homme politique, il est rate. C'est ce que il me semble. Si vous voulez, il y a quelque chose qui me semble évident dans tout ça. C'est quand même qu'on le veuille ou non, mais vous avez derrière chaque homme politique l'idée que il a besoin de trouver un bouc émissaire. Si vous voulez, si ça marche pas, c'est pas de sa faute.
Mmh.
En Suisse, on n'a pas besoin de trouver un bouc émissaire puisqu'on a voté. Oui, ils ont voté sur le projet, donc ils n'ont pas besoin, ils ont dit « je fais une connerie, la prochaine fois je ne ferai pas la connerie ». Est-ce que vous avez jamais entendu un homme politique dire « je me suis trompé » ?
Je ne suis pas sûr.
Non, vous voyez, donc s'ils ne peuvent pas dire « je me suis trompé », ils vont avoir besoin de dire « ça n'a pas marché parce que ».
Oui.
Et ce « parce que » ne peut pas être...
De son fait.
Donc, automatiquement, vous allez chercher les juifs, les riches, les banquiers,
les coiffeurs,
les arabes, les paysans, je ne sais pas. Vous allez chercher un bouc émissaire. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une maladie sociétale où tout le monde va se mettre d'accord pour aller casser la gueule au coiffeur. Quoi.
Ouais.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la Chambre des députés, si vous voulez. C'est pas monsieur Arnaud qui nous a filé 3300 milliards de dettes. Hein.
Ouais.
Et tout le monde veut tomber sur monsieur Arnaud. Alors qu'il a rien à voir avec la Schmilblick. Alors sur le coup, là, il a bien géré ses affaires, il a gagné du pognon. Et donc, ça fait naître une maladie sociale qui est l'irresponsabilité. Et la recherche de destruction de celui qui a bien géré ses affaires pendant que vous les gériez mal.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que vous êtes un gros nul. Ça veut dire que lui, il faut le casser. Donc, la démocratie représentative amène assez facilement à la recherche du bouc émissaire et de là à la rupture de la cohésion sociale, quoi.
Ouais. C'est effectivement, pour reprendre Bastiat, j'ai noté quelques citations. Il dit « L'État, c'est la grande fiction, c'est la grande citation. L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. » Et dans la loi, il dit aussi, c'est un peu la même idée, « La chimère du jour est d'enrichir toutes les classes aux dépens les unes des autres. C'est de généraliser la spoliation sous prétexte de l'organiser. Et c'est l'ensemble de tous ces plans qui prend le nom de socialisme. »
Voilà, c'est cette histoire de spoliation, c'est-à-dire que vous écoutez parler monsieur Piketty ou n'importe qui, leur but quand même c'est de spolier, ouais. C'est-à-dire de voler. voler ceux qui ont réussi pour le pour pourquoi chez eux.
Oui.
Parce que eux, ils n'ont pas réussi. Mmh.
Je pense qu'il y a aussi la question de l'ampleur, de la taille de l'État, qui est un petit peu en jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, en Suisse, la taille de l'État, elle est quand même assez minimale. En France, on considère que l'État doit s'occuper un petit peu de tout. Et forcément, ça amène tout un tas de problèmes. Adam Smith avait une bonne réflexion là-dessus. Il se méfiait de sa formule des hommes de système. Il écrivait que l'utopiste interventionniste se figure qu'il peut disposer les différents membres d'une grande société avec autant de facilité que la main dispose les pièces sur un échiquier. Il ne considère pas que chaque pièce sur l'échiquier a un principe de mouvement qui lui est propre. Et ça me fait réellement penser à toute la classe politique française.
C'est ce que dit Thomas Sowell. Ouais. Il dit les gens, ils s'imaginent qu'on peut prendre un gars qui a très bien réussi ici et le remplacer par un crétin qui... Oui. Et donc, c'est le refus d'admettre que chaque individu est complètement unique.
Oui.
Et donc, ce qui fait la force d'une société, c'est quand chacun des individus uniques peut se développer selon ses méthodes à lui, et pas qu'on lui force à suivre une méthode. Et ça rappelle ce que... les Grecs appelaient le lit de Procus. Vous avez entendu parler de ça. Le lit de Procus, c'était des bandits qui étaient sur une route en Grèce. Ils arrêtaient les gens, et s'ils étaient trop petits, ils le faisaient tirer par des chevaux pour qu'ils soient à la bonne taille du lit. Vous savez, ils le mettaient sur un lit. Puis s'il était trop grand, ils lui coupaient les jambes. Puis ils le ramenaient comme ça. Mmh. Ben, Piketty, Zucman et tout, c'est les bandits de Procus. Mmh. Ils veulent que tout le monde soit de la même taille. Et ce crétin de Mélenchon dit que lui, il supporte pas les gens qui ont les yeux bleus.
Oui.
Vous avez les yeux marrons, vous avez de la chance, mais moi...
J'ai même les yeux plutôt vert-marron. Vert-marron. Et avec des reflets bleus en été.
Vous êtes mal barré avec Mélenchon. Avec Mélenchon, vous partez dans le camp de concentration tout de suite.
Ou alors, je passe partout. Je peux aussi dire que j'ai les yeux de la bonne couleur.
Vous êtes douteux, vous.
Oui, je suis optimiste.
Non, mais si vous voulez, ce désir de massifier les gens, et je trouve ça effrayant, parce que dans le fond, c'est ce que disait Muret, qui était un écrivain que j'aimais bien. Mmh. Il disait, le but de toute société, c'est d'arriver à l'homme festif qui n'a plus de famille, qui n'a plus d'amis, qui n'a plus de club, qui n'a plus rien. Et il y a lui, l'homme festif, là, qui regarde la télévision et qui va manifester contre je sais pas quoi, et l'État. Et il n'y a rien entre les deux. Donc, ils veulent créer... des gens qui ne sont agrégés à personne, si vous voulez, qui sont tout seuls et qui... Et je trouve cette vue de la société, une société c'est une empilade de structures dont vous savez pas très bien pourquoi certaines sont là d'ailleurs, mais vous en foutez, si elles sont là, c'est qu'elles rendent service. Et c'est le contraire du conservatisme. Le conservatisme, c'est de dire, je sais pas pourquoi il y a une association des archers de la Garenne Colombe, si elle est là, c'est que...
C'est que sans doute, il y a des gens qui ont jugé utile que
si elle est là depuis longtemps, c'est qu'elle rend peut-être des services, on sait rien.
Et que ça n'a pas été inventé par un technocrate pour remplir tel ou tel ou quota.
Et c'est ce refus de l'individualité, de la supériorité de l'individu sur le groupe qui fait l'essentiel du socialisme.
Oui. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'ordre spontané dans la société. Voilà. C'est-à-dire que les gens s'organisent. Et ça donne un tout organisé, justement.
Et on sait pas trop. Mais on sait pas d'où ça vient.
On sait pas pourquoi.
Moi, je dis toujours que dans mes affaires, quand j'étais à Londres, etc., il y avait un gars qui était là. J'ai jamais très bien compris ce que vous faites. Mais quand il était pas là, tout le monde était triste.
Ouais.
Mais quand il était là, il mettait de la bonne ambiance dans le bureau. Ouais. C'est comme Jeeves. Il est pas là.
C'est un peu ça, oui.
C'est un peu Jeeves. On sait qu'il fout rien, d'ailleurs. Il pense qu'à bouffer, mais quand il est pas là, les gens ont pas le moral, quoi. Et donc, vous savez pas pourquoi ces sociétés marchent et pourquoi on avait besoin d'un gars qui servait à rien, quoi. Mais en fait, il maintenait le moral de tout le monde.
Effectivement, et à chaque fois, c'est ce qu'on voit tout à fait dans la politique française, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que ceux qui nous dirigent sont nuls, mais tout le monde veut exactement la même place et ne veut pas discuter doutaient des compétences et de l'ampleur du pouvoir que ces types ont. C'est-à-dire qu'ils disent tous, non mais voilà, ce type qui gère toute l'économie française, comme si c'était un jeu de plateau, en quelque sorte, comme si on faisait un risque ou un jeu de stratégie, on gère absolument tout, l'armée, la médecine, le machin.
Il passe de l'un à l'autre en plus.
Et il passe de l'un à l'autre, tout est organisé de manière soi-disant cohérente, etc. En fait, on désorganise la société, l'ordre que la société s'impose à elle-même. Donc, on fait absolument n'importe quoi. Les choses ne sont pas organisées derrière.
Et il pose pas le vrai diagnostic, celui que posait Goscinny et dans Uderzo, là, et Uderzo, Goscinny surtout, d'ailleurs, dans le. Ils disent le calife est bon, mais le vizir est mauvais. Donc, l'État est bon, mais il est mal géré. Mais mettez-moi à la place.
Oui, tout à fait.
Et à ce moment-là, vous verrez comme ça sera bien. Mais en réalité.
C'est un peu ça avec Jean-Philippe Tanguy, par exemple.
Ben voilà, Jean-Philippe Tanguy, c'est un gentil garçon. Mais vous le mettrez, il ne peut pas ne pas être noyé par l'État tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Donc le problème, c'est pas de discuter si Jean-Philippe Tanguy ou je sais pas quelle andouille du LFI. Mais c'est est-ce que l'État aujourd'hui. La structure de l'État est quelque chose qui doit être réduit, ramené à des dimensions normales, géré de façon différente. C'est ce que je dis toujours, la constitution de la Ve est une saloperie, puisque ça empêche la population de s'exprimer.
Là, c'est... Ouais, et y a une réflexion aussi, je la trouve assez intéressante, de von Mises, qui dit que la politique du juste milieu mène au socialisme. Et ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que cette espèce de volonté officielle, en tout cas, de vouloir trouver un peu le compromis entre liberté et égalité, mène toujours, en fait, à la victoire de l'égalité.
Ben, ça mène toujours. Vous savez, on en a parlé déjà ici, mais c'est quelque chose qui est très vrai. C'est-à-dire que le juste milieu... Imaginez que vous ayez la droite et la gauche. Mmh. Et que la droite puisse pas aller plus que ça à droite.
Ouais.
Mais donc la droite, ce soit aller à la liberté, mais il y a des trucs de liberté qu'on peut pas. La liberté de devenir esclave, par exemple, c'est pas interdit. Ouais. Donc la droite, vous savez où elle s'arrête. Et puis après, quand elle va d'après, c'est des trucs comme le fascisme et le nazisme, c'est pas acceptable. Bon, donc la droite.
En général, ça dure pas hyper longtemps.
Ça dure pas longtemps. Ça fait plein de morts, mais ça dure pas longtemps. Tandis que la gauche, elle vous dit pas où elle s'arrête. Elle peut aller jusque... Donc ouais. Automatiquement, comme elle va toujours de plus en plus vers la gauche, le juste milieu, il va toujours aller de plus en plus vers la gauche. La distance entre la droite qui est fixe et la gauche qui est complètement variable, ben, ça vous amène à des folies, quoi.
Tout à fait. Et puis, en fait, aussi, du côté de la droite, on va souvent regarder la pertinence de la législation, de la modification de la loi, de la politique en elle-même. À gauche, on va surtout regarder la pertinence du but recherché. C'est-à-dire que peu importe le moyen, si le but recherché est noble, bah on s'en fiche que d'écraser la tête d'enfant contre des arbres au Cambodge, on s'en fiche de tuer des gens parce qu'ils sont myopes.
C'est exactement ce que dit Chantal Delsol, elle dit quelque chose d'assez profond, elle dit la différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite ne veut pas changer l'homme.
Oui.
L'homme, depuis la Révolution française, les politiques, ils veulent faire, Dieu a pas bien fait réussi son coup, donc on veut faire un homme nouveau. Mmh. Et donc tous ceux qui font des hommes nouveaux, qui ont comme vocation à faire des hommes nouveaux, vous remarquerez que dans la gauche, ils sont jamais condamnés. Les communistes, ils en ont pas tué assez, sinon ça aurait marché, quoi. Mais alors que le type de droite, qui lui, veut pas faire un homme nouveau, il veut juste qu'on foute la paix à l'homme ancien, lui, il est toujours condamné. C'est quand même curieux, donc vous avez un côté, je veux remplacer Dieu dans la gauche.
Mmh, bien sûr.
Et donc je veux éliminer le Dieu ancien.
Bien sûr, absolument. On veut écraser aussi effacer les anciens fondements de la société et de la morale.
Et revenir à cet homo festivus tout seul.
Et ça date pas d'hier. Déjà, à l'époque de la Révolution, j'ai pensé l'autre jour parce que je disais un truc sur le sujet. Mais il y avait quelques jours avant son exécution, Robespierre faisait sa cérémonie de l'être suprême.
Ouais,
c'est un truc un peu perché pour en quelque sorte remplacer Dieu. Et aujourd'hui, dans...
Ça s'appelle la franc-maçonnerie aujourd'hui.
Oui, ça s'appelle la franc-maçonnerie. Oh, oui,
ils font des cérémonies où ils mettent des habits curieux, je sais pas ce qu'ils font, ils font des trucs très bizarres.
Ouais.
Mais ils adorent un être suprême aussi, donc vous vous dites, ils essayent de faire une église de remplacement.
Oui, et aujourd'hui, cette église de remplacement, c'est un peu la République avec ses symboles. Donc, alors, toute notion de
transcendance.
De transcendance est un peu annulée. Les nouveaux saints, c'est les types qu'on transfère au Panthéon, les badinters et autres. Alors, il faut les aduler, c'est interdit. interdit de discuter, voilà, d'en dire du mal. Vous avez dit du mal de Saint-Badinter, mon Dieu, mais vite au bûcher. Enfin bref, tout est un peu comme ça. Et encore une fois, je me faisais une autre réflexion, c'est que il y a un an, les principaux détenteurs de grands médias passaient en audition devant l'Assemblée nationale. Donc il y avait Bernard Arnault, il y avait Vincent Bolloré et d'autres qui sont passés. Vincent Bolloré dit que il n'a aucune influence sur la ligne éditoriale de ses émissions. Il n'impose pas telle ou telle personne, il n'impose pas tel ou tel thème, etc. Récemment, visiblement, dans son dernier livre, Philippe de Villiers explique le moment où Bolloré, en personne, lui a promis une émission. De Villiers lui explique, mais moi, historiquement, je faisais de la politique, j'étais surtout dans le milieu de la culture avec machin, je suis pas forcément, avec le Puy du Fou, je suis pas forcément quelqu'un pour faire des émissions. Et Bolloré lui dit, non mais t'inquiète, t'auras ton format à toi, on va bien t'adapter comme il faut. Et le président de la commission qui recevait ces directeurs de médias, enfin ces détenteurs de médias, disait, oh mon Dieu, mais ça veut dire que Bolloré a menti, c'est un parjure devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement, etc. Et je me faisais la réflexion, mais parjure devant quoi? C'est-à-dire qu'on a supprimé tout le sacré. Aux États-Unis, on parjure devant Dieu, on jure sur la Bible. Là, on parjure devant quoi? Devant Sainte Marianne? Enfin, c'est quoi le châtiment divin qui va s'abattre sur lui? Et d'ailleurs, au final, il va strictement rien se passer, mais non, en réalité.
Parce que les gars, ils parjurent dans l'Assemblée tous les jours, ils racontent n'importe quoi, quoi. Donc,
ouais.
Donc ils sont pas non plus très... En principe, dans la Constitution américaine, un homme, ce qui sans doute va arriver à l'ancien patron du FBI, à l'ancien ministre de la Justice, un homme qui a menti devant le Congrès, si on réussit à prouver qu'il a menti devant le Congrès, il fait 20 ans de tôle. Hein, ouais. C'est pas...
Personne ne fait ça en France.
Mitterrand n'a pas fait 20 ans de tôle. Hein. après avoir menti pour son histoire du jardin de l'Observatoire, là, il a lui rien arrivé. Quoi. Ouais. Non, mais c'est très intéressant tout ça, parce que donc, ils utilisent les espèces de codes d'honneur de l'ancienne façon de penser de la droite. Quoi. Ouais. Mais... Comme vous le dites vous-même, il ne peut pas y avoir d'honneur s'il n'est pas individuel. Je veux dire, bon, mon grand-père a démissionné de la haute administration française parce qu'il s'est passé un truc qu'il a refusé quand il était en Syrie, donc il a donné sa démission. Mais c'était une décision individuelle. Et alors ce qui me sidère aujourd'hui, c'est qu'on voit la dame qui est en charge du Louvre présenter sa démission au président de la République, qui la refuse.
Ouais.
Mais moi, si j'étais dans cette position-là et que je pense que je devais démissionner, le président de la République, je lui fais
oui.
Je démissionne. Mon honneur est plus important que la décision du président de la République. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le président de la République qui donne les postes honorifiques et que donc, c'est lui qui peut décider de démissionner pour moi. Mais non, si je suis déshonoré, je m'en vais.
Ouais.
Et personne ne pourra m'en empêcher. C'est ça l'honneur, ouais. Non ?
Du coup, j'ai appris d'ailleurs à cette occasion que c'était le président de la République qui nommait le président du Louvre, ce qui en soi n'a pas beaucoup de sens, puisque normalement un président, il est quand même élu au moins par un conseil d'administration, donc ça veut dire que le président du Louvre...
Le président de la République française est celui qui est élu le plus au monde de position de pouvoir.
Ouais.
Ça, voilà un truc qui devrait être supprimé aussi.
Évidemment. Évidemment, le Louvre devrait être indépendant, autonome.
Le Louvre devrait être dans une espèce de trust.
On a l'impression que c'est un musée qui croule sous les dettes, qui n'arrive pas à mettre des caméras dans chacune de ses pièces, etc. Alors que c'est le musée du monde qui génère le plus de place chaque année.
En plus, il vend ses expositions, etc., au Qatar, etc. Ils ont tiré 250 ou 300 millions d'euros de tous ces trucs qu'ils font à l'étranger. Donc, il avait le pognon, mais j'imagine que ce pognon a été pris par le ministre des Finances et donné pour le SOS Méditerranée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir du moment.
Par le ministère de la Culture.
Par le ministère de la Culture. Donc, à partir du moment où le Louvre n'est pas une entité qui devrait être. Qui requiert mal à être rentable, dès qu'elle fait du pognon, pof, ça s'en va ailleurs. Dans la corruption.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour continuer encore une fois sur les auteurs libéraux, sur les réflexions entre la démocratie et le socialisme, je notais aussi quelques citations de Hayek. Il disait que, en gros, seul le capitalisme permettait la démocratie. Si celle-ci se laisse dominer par un credo collectiviste, elle s'autodétruira inévitablement,
Ben
pardon.
ouais, c'était la route
De
vers
la
la servitude.
servitude en 44, ouais, tout à fait.
C'est un très bon bouquin, ça.
Ouais.
Alors vous savez que c'est rigolo, c'est qu'Hayek, il était professeur en Autriche, puis il est parti en Angleterre où Keynes l'a beaucoup aidé
Ouais.
d'ailleurs, c'était très bien, il a enseigné un petit peu à la London School of Economics, et puis il est parti aux États-Unis, il a publié ce bouquin qui a été un succès mondial, La route de la servitude, là. Et le département d'économie de Chicago a refusé de le prendre comme professeur parce que c'était trop sociologique son truc,
Ah oui,
il y avait pas assez de
ça c'est
mathématiques,
intéressant.
donc
Ouais.
il est allé dans un département de sociologie enseigner, etc. Donc il a enseigné à l'université de Chicago, mais il n'était pas dans le sein des saints, quoi. C'était,
Ouais.
donc même là il y avait des bagarres pour savoir qui est, alors que c'est un philosophe extraordinaire.
Ouais, tout
À la fin, Hayek, je comprenais plus très bien. Autant les premiers bouquins étaient très clairs, à la fin c'était, pour moi,
Oui,
ça devenait de l'allemand, quoi.
c'est vrai que la route de la servitude, c'est beaucoup plus sociologique en quelque sorte
Ouais.
que économique. Hein. C'est plus.
Ça ressemblait du Tocqueville.
Ouais. Oui, tout à fait, ça ressemblait à du Tocqueville, absolument. Et il dit à chaque fois, un régime qui planifie l'économie en vient fatalement être dirigé par des dirigeants autoritaires, prêts à toutes les brutalités, pardon, pour faire appliquer le plan. Et il parle notamment de cela par rapport à l'Angleterre, parce que nous, on a l'impression aujourd'hui, surtout en tant que Français, que l'Angleterre a toujours été
Ah ben
parfaitement
pas du tout,
libérale.
en 46.
Thatcher a une empreinte tellement importante qu'on se dit, ils ont toujours été thatchériens, les Anglais.
Rien du
Pas
tout,
du
ouais.
tout. Au lendemain de la
C'était
Seconde Guerre
Varsovie,
mondiale,
hein.
ouais, c'était
C'était,
violent.
vous savez, parce que c'était l'Angleterre travailliste des années 45 à 77, ça a été.
Oui, bah d'ailleurs même les conservateurs qui étaient au pouvoir à cette
Ah oui,
époque-là
leur but, c'était les
étaient.
conservateurs, ce qu'ils
Ouais.
appelaient, Thatcher les appelait les wet,
Ouais.
les mouillés, les humides, parce que leur but, c'était de gérer le déclin de l'Angleterre,
Ouais.
doucement. Ils s'étaient placés dans une optique, If et compagnie, ils s'étaient placés dans une optique, le déclin de l'Angleterre est inéluctable, il faut maintenant qu'on gère ça pour que ça soit pas trop douloureux, quoi.
Ouais.
Alors que l'Angleterre, le but de Thatcher, c'est de dire ce déclin n'est pas inévitable et on va repartir à l'air.
Ouais,
Et il y a
tout à
beaucoup
fait.
de la droite française qui est aussi dans une optique de gérer le déclin.
Je suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs,
Vous
c'est
regardez
très
Bayrou,
étonnant.
c'est à crever, quoi.
Ouais. Et je vois même des types qui, par exemple, enfin, félicitent les Argentins pour l'élection de Javier Milei, mais qui, en France, vont voter tous les budgets socialistes des LR,
Absolument.
etc.
Mais on
Et
a qu'à voir
j'ai
les
envie de
voix
dire,
qui votent.
mais dans, enfin, quel est votre univers mental? Pourquoi vous considérez que d'autres peuples, comme les États-Unis, comme l'Argentine, comme
Mais parce que les
la
Français sont
Chine,
crétins et lâches.
etc.
Et
Et donc, ils méritent de mourir dans le silence.
donc on peut pas appliquer aux Français le truc de Milei, parce que, n'est-ce pas, je sais pas, leur concierge s'est fâché contre eux ou des trucs
Ouais.
importants comme ça, quoi.
Milton Friedman. Une société qui place l'égalité avant la liberté n'obtiendra ni l'une ni l'autre. Une société qui place la liberté avant l'égalité obtiendra un haut degré des deux. Ça
Voilà.
aussi, je la trouve géniale, cette
Allez, tout à
citation.
fait, c'est tout à
Ouais.
fait exact. Mais vous auriez pu citer aussi Thomas Sowell qui fait des.
Ouais, tout à fait.
Okay, ou bien. Mais il y a toutes ces. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que. On l'a très bien vu au moment des élections argentines, c'est que la classe intellectuelle médiocre qui domine nos pays en ce moment, quand un pays se lance dans cette expérience de se redresser, comme le Canada de Chrétien, ou le Thatcher, ou les États-Unis de Reagan, etc. On ne peut pas savoir comment Reagan a été ridiculisé quand il est arrivé au pouvoir. C'est un acteur de seconde zone, etc. Tous mes amis inspecteurs de finances se foutaient de la gueule de Reagan toute la journée en disant il n'arrivera à rien. Donc, ces gens médiocres, quand un homme politique prend la décision de redresser son pays, qui prend les mesures, font immédiatement l'hypothèse que ça va échouer. Alors que ça n'a, pour ainsi dire, jamais échoué. Et quand ça réussit, ils sont immédiatement stupéfaits. Vous avez qu'à voir d'ailleurs ce qui se passe au Figaro ou partout sur les élections de Milei. Il était certain qu'il allait perdre, et d'ailleurs qu'il
Oui.
méritait de perdre.
Au moment où il était élu, il était complètement fou, il
Au
était
moment où il était
voilà,
fou, on nous le montre avec une
absolument
tronçonneuse et les cheveux comme
déraisonnable et
ça.
tout, ouais.
Et ensuite, l'étape suivante, c'est une fois qu'ils l'ont fait, une fois qu'ils ont réussi, etc., ça se passe toujours, ils disent que ça ne pourrait pas se passer en France parce que le peuple français n'accepterait pas. Mais il l'a très bien accepté avec De Gaulle, il l'a très bien accepté. Il y a eu des tas de cas dans l'histoire où le peuple français a tout à fait. Donc, La classe politique est extraordinairement lâche et elle justifie sa lâcheté par la prétendue lâcheté du peuple.
Ouais, c'est vrai.
Et je trouve cette façon de raisonner, mais honteuse.
Tout à fait. Ils ont surtout une vision totalement biaisée de ce que le peuple demande.
Oui,
C'est-à-dire qu'ils
ils ont une
inventent.
version basse.
Ouais, ils inventent des demandes du peuple et ensuite ils disent bah le peuple veut ça donc je vais faire ça et ensuite évidemment ça ne marche pas et ensuite ils disent oui mais c'est parce que le peuple le demandait. Non, c'est parce
Le
que tu
demandait par
pensais que le
exemple,
peuple le demandait mais pas du tout.
pas du tout, parce que je me souviens très bien de la télévision quand j'avais votre âge, où il n'y avait que deux chaînes, et il y avait, on ne savait pas laquelle regarder parce qu'il y avait des très bons programmes sur les deux chaînes, c'était vachement bien. Maintenant, on a 1000 chaînes en partant du principe qu'il faut que le peuple ait le choix, et il n'y a que de la merde sur les 1000 chaînes.
Oui, c'est vrai.
Et bien, autrefois, je sais pas comment ça marchait, mais si vous voulez, vous aviez des programmes, des pièces de théâtre. Je me souviens d'une Don Juan de Molière qui était jouée par Michel Piccoli, qui était mais prodigieux. Je m'en souviens encore, c'est pour vous dire. Pourtant, j'aimais pas Piccoli. Mais ben, ça fait rien. Donc, si vous voulez, ces gens-là ne pensent pas que leur devoir, c'est d'élever le peuple par l'éducation. Ils pensent qu'il faut le ramener vers le bas par la flatterie et la subvention. Il faut pas faire un peuple de mous. Il faut faire un peuple de citoyens, et ça, c'est quand même difficile à faire. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est le mépris de cette classe politique, j'en connais un certain nombre, pour les gens qui les ont élus.
Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est un mépris qui est, en fait, c'est un mépris de classe globalement, parce que
Ah,
c'est un
tout à fait.
mépris qui est aussi partagé, d'ailleurs y compris des gens qui typiquement sont quand même globalement dans des bas salaires, à savoir les journalistes. Les journalistes sont pas particulièrement riches, voilà, sauf les gros journalistes de plateau, eux ils sont très bien payés, les Léa Salamé, Monsieur Cohen et autres
Mais ils sont
sur
payés quand
toutes les
ils
chaînes
sont dans le
d'ailleurs.
service public. Parce que s'ils
Oui.
sont très bien payés dans le secteur privé et qu'ils ne font pas rentrer la publicité, ils sont virés.
Oui, bien sûr.
Parce qu'eux, ils continuent.
Oui, bien sûr. Typiquement, alors c'est assez amusant. Donc Léa Salamé maintenant présente le JT de France 2. France 2, tout l'été, on a fait tout un pataquès en disant, regardez, c'est incroyable, Léa Salamé débarque pour le 20h. Et visiblement, les audiences du 20h dégringolent comme c'est pas possible. Bon, Léa Salamé est quand même très très bien payée, alors je suis très content pour elle. Mais même les petits
Elle n'est pas
journalistes,
payée autant que vous, quand même.
Non, je pense pas quand même,
Qu'est-ce
n'exagérons
qui nous
pas.
coûte comme pognon? Ça fait partie
N'exagérons rien. Mais.
ça fait partie du folklore de l'Institut des
Voilà.
libertés qu'il est trop payé.
C'est un des piliers fondateurs. Non, mais même les petits gratte-papiers méprisent profondément le peuple et cherchent en permanence à l'éduquer. C'est pas de l'information, c'est de
Non, ils
l'éducation.
lui disent pas l'éduquer, ils lui disent ce qu'il doit penser, non pas comment il doit penser. Apprendre à penser, c'est très difficile, mais ils disent, si vous
Ouais.
dites ça, c'est que vous
Oui,
êtes
ce
pas,
qu'il faut penser, oui,
ce qu'il faut
effectivement. Ouais.
penser. Et ça, c'est plus
Effectivement, oui,
c'est
c'est
de
plus pertinent que le
l'endoctrinement.
terme éducation. D'ailleurs,
C'est
ouais.
l'endoctrinement, c'est ce qu'on faisait avec les jeunesses hitlériennes, si j'ose dire.
Oui. D'ailleurs, il y a souvent le terme qui revient dans les médias, c'est faire de la pédagogie.
Oui.
C'est-à-dire, il faut apprendre aux gens à penser comme ceci et pas comme cela, quand
Ce
même.
que les
C'est.
gens retiennent, c'est qu'il ne faut pas dire ça.
Oui.
Il y a un certain nombre de trucs. Par exemple, les Argentins, ils peuvent parler de patrie, puisqu'ils avaient leur deuxième parti qui était patrie, même si c'était que des brigands. Mais nous, on ne peut plus parler de patrie.
Oui.
Patrie, c'est l'endroit où votre père est enterré, donc ça, c'est pas bien du tout, parce que
Oui.
vous êtes censé être complètement indifférent à l'endroit où votre père est enterré.
Oui. C'est
C'est
un
pas mon
mal
cas.
supplémentaire que nous avons par rapport à l'Argentine. On a aussi un, on dit, on va dire, on part d'un capital plus, enfin, économique plus déployé, plus
Mais ils
ample.
étaient plus riches que nous en 45. Hein.
Oui, mais oui, ils étaient plus riches que nous en 45. Oui, tout à
Beaucoup plus
fait.
riches que nous. Hein. Mais vous allez d'ailleurs à Buenos Aires, vous regardez la ville qui a été bâtie donc entre 1880 et 1945. Là, c'est très prospère,
Ouais,
mais
bien
les
sûr.
immeubles sont pas entretenus.
Oui. C'est vrai.
Et vous allez, ce qui est très rigolo, c'est une des choses à visiter à Buenos Aires, c'est le cimetière. Parce qu'alors, comme c'était beaucoup d'Italiens qui étaient là, les tombes, c'est pas de la tarte. Hein.
Ouais. Ah oui, les Italiens, ils déconnent pas avec les tours.
Ils déconnent pas, donc il y a des statues, tout ça. Mais c'est très beau, hein, le cimetière de Buenos Aires. Après qu'il y a des fantômes aussi. c'est ce qu'on m'a dit quand je l'ai visité, mais...
C'est tout à fait possible. Bah, avec une tombe pareille, on a envie de traîner dans le coin.
Exactement, mais je comprends qu'il y a des fantômes. Donc... Mais Buenos Aires, c'est très intéressant, parce que c'est... Il y a aussi des trucs comme ça qui se passent. Je raconte des anecdotes, mais... C'est qu'il y a un endroit dans le sud où il y a une espèce de pont de glace qui se forme sur un lac, où il y a deux lacs, et quand le lac... Et puis, ensuite, l'eau monte, et la pression augmente tellement qu'on peut calculer à quel moment le pont de glace va se casser, et le premier lac va se vider dans le deuxième. Donc, à ce moment-là, il y a plein de touristes qui arrivent, ils disent « ça va se péter maintenant », et tout le monde vient voir, etc. Et j'étais en train de regarder un jour une émission de télévision sur le réchauffement atmosphérique, je n'avais vraiment rien à avoir à foutre. Et le type expliquait, regardez, en Argentine, la fonte des glaces entraîne qu'un lac se vide dans l'autre, etc. Ouais. Mais ça fait 200 ans que ça se passe et qu'on va le regarder, qu'on va le filmer chaque fois. Quoi. Ça se passe une fois tous les 4 ou 5 ans. Donc vous vous dites, voilà une information, on montrait le moment où ça se pétait, le glace. En effet, c'était très dramatique.
Ouais.
Mais vous vous dites, le journaliste qui prend ça comme information et qui la transforme comme ça, c'est une vraie ordure.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? À partir de quel moment le journaliste...
C'est monnaie courante. Hein. Moi, à chaque fois, ça arrive très souvent que je regarde parfois des documentaires sur Netflix ou autre. Et alors, le documentaire est souvent de très bonne qualité, c'est très bien filmé, c'est très bien narré, etc. Et puis, ça termine très souvent les 5 dernières minutes, c'est toute une diatribe justement sur le réchauffement climatique, le réchauffement atmosphérique, tout ça. Ouais.
Et tout ça m'agace parce que du coup, autrefois, le rôle du journaliste, c'était de trier l'information qui était bonne et celle qui était mauvaise, puis de la donner au peuple, si j'ose dire. Oui. Mais aujourd'hui, il trie les informations en fonction de ce qu'il pense que le peuple doit savoir. Mais le reste, il ne doit pas le savoir. Ben, c'est pas acceptable.
Oui.
C'est pas acceptable.
Enfin, voilà pour l'Argentine. En tout cas,
pour l'Institut des Libertés, on est très content.
Oui, bien sûr. C'est la preuve que la liberté peut encore triompher en démocratie, que la démocratie n'est pas forcément vouée à dégénérer en socialisme. En tout cas, là, on a un contre-exemple. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour ce qui est de l'Argentine. Déjà, stabiliser la monnaie, stabiliser l'inflation, le taux de change, tout ça.
Le taux de change, ça va prendre du temps, mais maintenant, il a eu une année dans laquelle il a fait beaucoup de boulot. Maintenant, la deuxième année, ça va être de stabiliser le taux de change. Et pour ça, si je ne sais pas exactement comment on le fait, pourtant c'est mon métier, mais peut-être faudrait-il regarder les obligations émises par l'Argentine, par exemple en dollars. Si elle vous donne du 13 ou 14%, des choses comme ça, peut-être c'est peut-être pas complètement idiot.
Ouais, peut-être.
De mettre ça plutôt que des obligations de l'État français.
Ouais, on pourrait regarder ça.
On va peut-être regarder ça pour l'université de l'épargne. C'est pas sérieux, mais en même temps, il y a
des tas de... C'est pas sérieux, mais c'est marrant.
Voilà, c'est pas sérieux, mais c'est marrant.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, peut-être qu'on va faire une émission là-dessus, je sais pas encore spécifique, sur la politique monétaire en Argentine, parce qu'il y a beaucoup de trucs assez techniques. Mais pour ceux que ça intéresserait, il y a Alexandre Lohmann, qui est un type qui est en contact avec nous, qu'on apprécie particulièrement, et qui a fait surtout des super prévisions, là où il travaillait, pour l'inflation au Brésil. Il a fait 2 articles sur son site internet, sur son blog, pour parler justement de la politique monétaire en Argentine.
Il avait recommandé comment on pouvait acheter des obligations brésiliennes qui ont très bien marché. Hein.
Voilà, tout à fait. Et donc, il a fait 2 articles pour parler de la politique monétaire argentine, en Argentine. Et du coup, pour ceux que ça intéresserait, qui ont
vous
vraiment...
Vous pouvez me les imprimer?
Absolument, c'est déjà fait. je les ai dans la main. Peut-être on en parlera sur l'université de l'épargne, peut-être
oui, c'est
que...
une bonne idée.
Je ne sais pas encore. Mais enfin voilà, pour ceux que ça intéresserait, en tout cas en version écrite et de manière rapide, ils sont disponibles. Je mettrai le site internet dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie bien sûr pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Et vive la liberté.
Et vive la liberté, bordel.
Fiero, comment il dit Fiera? Fiero
Carajo.
Non, vous savez, quand on le voit, il déchire des trucs. Il y a...
Ah oui, afuera.
Afuera.
Ah oui, bien sûr,
afuera.
Bien sûr.
Afuera. À la poubelle.